Je voudrais parler d'un thème qui n'est peut-être plus trop d'actualité dans l'Église du XXIe siècle, mais qui pourtant est essentiel et important à notre marche et important à tout enfant de Dieu, à tout enfant et tout homme, femme, né de nouveau. Je voudrais parler de la sanctification. La sanctification. Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière et le sel de ce monde. Mais comment l'Église peut-être être sel et lumière de ce monde si sa mentalité, si sa façon de faire, si son intelligence, si tout ce qu'elle fait prend exemple sur ce que le monde propose? Comment l'Église peut continuer à être cette lumière et cette sel que le Seigneur nous a demandé d'être? Aujourd'hui, vous serez d'accord pour dire que nous vivons dans un monde où on a fait du péché un art de vivre. On appelle bien ce qui est mal, mal ce qui est bien, tous les repères sont perdus. Et un des dangers, je crois, pour l'Église, c'est de vouloir devenir tellement accessible à ce monde, tellement accessible à notre société, que l'on perd notre vraie identité et notre vraie vocation que le Seigneur nous a demandé d'être. La sanctification est une exigence à laquelle chaque croyant, chaque homme, chaque femme né de nouveau doit se soumettre. Hébreux 12, verset 14 nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » J'aime bien la version à la Semeur qui dit « Cultivez la sanctification ». Et cultiver, il y a vraiment cet effort de vouloir travailler à grandir dans cette sanctification. Dans un autre passage, l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 1,15, dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Et l'apôtre Pierre, ici, utilise un verbe à l'impératif « soyez ». C'est-à-dire que c'est comme un ordre, une recommandation. Nous sommes appelés à marcher et à progresser tout au long de notre vie. Et on va voir dans la suite que dans cette sanctification, chacun d'entre nous doit progresser dans ce domaine. Et la sanctification n'est pas réservée uniquement à un groupe de personnes, à un groupe d'élite, à seulement certaines personnes, mais elle est pour tout le monde. D'ailleurs, la Bible dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nous sommes tous sous le même pied d'égalité. Et nous avons tous besoin d'être sanctifiés et de progresser dans cette sanctification. La sanctification doit accompagner le chrétien jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On va faire une lecture dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Et à partir du verset premier. Un Thessaloniciens 4, verset premier, je lis. Au reste, frères et sœurs, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Amen. Paul va encourager les Thessaloniciens à progresser. Et juste pour rappeler très courtement le contexte de cette ville, Thessalonique était une ville très importante. Elle va devenir même la capitale de la Macédoine, la capitale romaine. Et c'était une ville où il y avait du commerce, une ville où il y avait un port militaire important, une ville qui avait une certaine popularité, mais c'était aussi une ville qui était connue pour son immoralité. Et dans le passage que l'on a lu, Paul va inviter les Thessaloniciens à marcher de manière à ce qui plaise à Dieu. Et ici, quand il est dit marcher, c'est la manière de vivre, notre comportement, notre attitude. Et Paul va donc exhorter les Thessaloniques, qui étaient une jeune église. Il va encourager ses croyants à continuer de persévérer dans leur foi, à continuer de persévérer et de marcher comme ils le faisaient, mais pas juste de s'arrêter là. Il va leur dire aussi de progresser dans la sainteté et dans la sanctification. Alors, qu'est-ce que la sanctification ? De façon générale, que ce soit dans l'Ancien et le Nouveau Testament, le terme sanctifié ou sanctification signifie une mise à part, être séparé ou rendre saint. Dans le Nouveau Testament, on retrouve plusieurs mots qui reviennent sous d'autres termes. On retrouve la sainteté, saint, sanctuaire, sanctifié, consécration, purification, et tous ces mots sont étroitement liés à la sanctification. La sanctification signifie donc une mise à part, une séparation pour Dieu de toute souillure, de tout péché. Et dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu voulait utiliser une personne ou un objet, il le sanctifiait. On a l'exemple du tabernacle et de tous les objets qui étaient utilisés pour ce service. Tout était sanctifié, tout était mis à part pour Dieu et pour son service. Les hommes, les sacrificateurs eux-mêmes étaient sanctifiés. Exode 19, verset 22 dit que les sacrificateurs qui voulaient s'approcher de l'Éternel devaient se sanctifier de peur que l'Éternel les frappe de mort. Quand on lit l'Ancien Testament, il y a des fois, ça fait peur. Hein. On a l'exemple des fils d'Aaron hein, qui sont rentrés dans le lieu très saint, ils ont été foudroyés. Enfin bref, je ne veux pas vous faire peur. Mais il fallait que ces hommes et tous ces objets soient sanctifiés pour s'approcher de Dieu. Lévitique 16, c'est un texte que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a qui lisent le Lévitique. C'est un livre qui n'est pas trop lu. Mais le Lévitique 16, j'aime beaucoup parce que c'est le moment où c'est ce qu'on appelle le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Et il y a tout le déroulement du grand souverain sacrificateur qui rentrait dans le lieu très saint et tout le déroulement de tout ce qu'il devait faire pour entrer dans ce lieu. Il devait se purifier. Il devait purifier sa famille, il devait purifier le peuple, apporter une offrande, il devait transmettre les péchés du peuple sur un bélier qui partait dans le désert. Il ne rentrait pas de n'importe quelle manière dans le lieu très saint. Et juste une petite parenthèse, ça m'interpelle toujours parce que je me dis, mais de quelle manière nous venons dans la présence de Dieu ? De quelle manière nous nous approchons de Dieu quand nous venons dans ces moments ? Est-ce qu'on nous prenons un peu les choses à la légère ou est-ce que vraiment on a cette attitude qu'avaient ces hommes à se purifier, à se laver complètement ? Enfin bref, ce n'est pas le sujet, mais ça m'interpelle toujours. Alors on pourrait se poser une question, pourquoi devons-nous nous sanctifier ? Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu est saint et c'est une de ses caractéristiques. Et puisque Dieu est saint et qu'il nous appelait à être avec lui, nous devons être sanctifiés. Nous avons besoin d'être sanctifiés parce que nous sommes salis par le péché. Matthieu 15, verset 19, dit « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » Et nous avons besoin d'être couvert par le sang de Christ. et on l'a appris et on l'a repris ce matin. Et à travers ce pain, ce vin, il y a ce sang qui non pas nous tache. Et d'ailleurs, c'est le seul sang qui ne tache pas, mais c'est le sang qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Et d'où la nécessité de croire dans l'œuvre rédemptrice de la croix, de croire dans ce que Christ a fait pour nous. Et lorsque nous sommes lavés par le sang de Christ, Dieu ne nous voit plus comme coupables, mais il nous voit justifiés. Le sang de Jésus nous purifie et nous lave de tout péché. Alors, dans la sanctification, il y a trois étapes. On peut dire passé, présent, futur, pour faire simple. Et on va essayer de voir assez rapidement ces trois étapes. Il y a d'abord la sanctification passée, celle qu'on peut appeler aussi instantanée. Quand nous donnons notre vie à Christ, la Bible dit que nous sommes justifiés, c'est-à-dire de coupables que nous étions, nous sommes déclarés maintenant justes. La condamnation qui était sur nous a été ôtée. Mais elle nous dit aussi que nous sommes sanctifiés. Et la sanctification a un commencement. La sanctification commence au moment où nous acceptons Christ dans notre vie. Au moment où le Saint-Esprit nous révèle qui est Christ, il nous lave de nos péchés et nous sommes sanctifiés. Et c'est un point de départ. Au moment où nous donnons notre vie à Christ, Dieu nous régénère, c'est-à-dire qu'il nous fait naître de nouveau. Il nous donne une nouvelle vie. Et je pense qu'on est plusieurs à l'avoir expérimenté. Il y a un changement radical en nous lorsque nous comprenons qui est Christ. Nous ne pouvons plus pratiquer le péché comme on pouvait le faire avant. Et cette révélation, c'est un point de départ. Romains 6, verset 5 nous dit « En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Amen. Une fois que nous sommes nés de nouveau, comme je disais, nous ne pouvons plus pratiquer le péché comme on pouvait le faire avant. 1 Jean 3,9 nous dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » Nous ne pouvons plus vivre dans le péché. Il faut comprendre qu'on peut pécher, ça peut arriver, et il faut vraiment... Ça peut arriver de chuter, mais nous ne pouvons plus vivre dans le péché comme on pouvait le vivre avant. Nous avons besoin d'être lavés. Et cette sanctification, cette étape est acquise par Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de ce salut. C'est Dieu qui est l'auteur de cette sanctification. Mais Dieu veut aussi que nous progressions dans cette sanctification. Au verset 3 de notre lecture de 1 Thessaloniciens 4, Paul va dire « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. » Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est né, parce qu'on a eu la sanctification initiale que ça y est, c'est fini. Mais c'est tout un processus et qui doit nous accompagner. Et ce n'est de notre part. Et c'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. On a pour mission de lutter avec la chair. Nous avons pour objectif de nous séparer du péché, mais il semblerait que le péché persiste encore. La Bible dit que ce n'est qu'à la glorification de nos corps que nous serons entièrement sanctifiés, entièrement parfaits, que l'œuvre de la sanctification sera entièrement achevée. Mais tant que nous serons sur cette terre, nous aurons toujours à lutter avec nos pensées, à lutter avec notre âme. Ce n'est que lorsque nous aurons et nous serons avec le Seigneur auprès de lui que nos âmes seront entièrement libres du péché et que nous pourrons avoir et que nous aurons atteint cette perfection. L'apôtre Paul pourra dire « Car je fais le bien que je ne veux pas et je fais le mal que je... » Pardon, c'est l'inverse, excusez-moi. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Un autre exemple qui montre cette dualité, et Emmanuel en a parlé la semaine dernière, c'est David. Un homme choisi par Dieu, un homme oint, c'est-à-dire rempli de l'esprit, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui avait été choisi, mais il avait à lutter contre cette chair. Même, il est dit que David a péché entre la convoitise, l'adultère, le meurtre, le mensonge. Il y a eu en David cette lutte, et cette lutte l'a fait chuter. Et lorsque David va reconnaître son état, lorsqu'il va reconnaître sa faute, il va faire cette prière: « Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » David a reconnu qu'il avait péché. Et je crois que, comme je disais, tant que nous serons sur cette terre, nous aurons à lutter avec notre chair, avec nos pensées, avec notre vieille nature qui, certes, a été crucifiée, mais qui peut être encore là. Et je crois que la prière de David doit nous servir d'exemple pour chacun d'entre nous. Lorsque peut-être nous sommes dans un point où nous avons péché, nous devons dire comme David: « Père, lave-moi complètement, car j'ai péché. Lave-moi complètement de ma faute. » Et cette progression dans la sanctification que Paul va dire aux Thessaloniciens et qui nous enseigne aussi, est un combat dans la vie de tous les jours. Dans l'épître aux Galates, chapitre 5, Paul dira: car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. L'esprit lutte constamment avec la chair et il s'y oppose, afin que la chair ne fasse pas ce qu'elle veut. Jésus dira lui-même dans Matthieu 26, verset 41, « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La chair conçoit des pensées, conçoit des raisonnements, la chair conçoit des attitudes pour nous faire tomber, et nous avons besoin de grandir dans ces choses. Et vous savez, on est loin d'être parfait. Qui peut dire ce matin « je suis parfait » ? On a Emmanuel, Dieu avec nous. Mais même lui, je pense, faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que c'est lui qui remplit mes dossiers. Personne n'est parfait, et nous avons tous à lutter. Et le danger, vous savez, le diable va se servir de ces petites failles qui sont là pour nous faire pécher et nous dire « mais oh, c'est pas grand-chose ». Et Paul va dire aux Thessaloniciens justement et va les mettre en garde contre ces choses. Parce que le danger pour eux, c'était de considérer l'impudicité, l'immoralité comme quelque chose de normal. Il faut rappeler que les Thessaloniciens vivaient dans un monde grec, avec la culture grecque, avec l'idolâtrie qu'il pouvait y avoir, la politique, la littérature. Et toutes ces choses étaient des pratiques immorales. Et le danger pour eux, c'était de dire « ouais, mais c'est pas grand-chose ». Et c'est pourquoi Paul les met en garde si clairement. Et une question que je voudrais poser, c'est: est-ce que l'exhortation que Paul fait ici, et pareil, enfin ici aux Thessaloniciens, est-ce qu'elle est encore valable pour nous aujourd'hui? On pourrait se dire oui, mais la Bible, elle est vieille, le monde évolue, il faut que la Bible évolue. Mais je crois pas. La parole de Dieu demeure éternelle, et je crois que cette exhortation est encore valable pour nous aujourd'hui, dans le monde que nous vivons. Vous savez, les apôtres vivaient dans un monde peu différent du nôtre. Quand on regarde bien, il suffit de lire 1 Corinthiens, lire les Galates, on voit qu'il y a des choses qui se ressemblent, mais les apôtres n'ont jamais rabaissé les principes bibliques pour s'adapter au monde. Et le monde qui nous entoure est plein de corruption, plein de compromis, plein de malice. Et hélas, bien souvent, Comme je disais tout à l'heure, l'Église est tellement affectée par ces choses et le danger serait de considérer des petits détails et se dire « mais tout ça, c'est pas grand-chose ». Vous savez, cet été, j'étais sur Grenoble et je discutais avec un des pasteurs. Il me disait « mais Guillaume, tu serais étonné de voir ce qui commence à rentrer dans nos églises ». Quand je dis « église », c'est avec un grand « e » de manière générale. De considérer des relations hors mariage, et puis bon, voilà, c'est pas grand-chose. C'est des choses, et petit à petit, le monde, vous savez, vous connaissez cette expression, le monde est entré dans l'Église. Là, c'est le danger. Hein. Quand on en arrive là, c'est un danger. C'est pourquoi je crois qu'il est important de savoir écouter la voix du Seigneur pour être sanctifié, et dire, mais voici, ton serviteur écoute. Il faut que nous soyons sensibles à la voix de Dieu. Il faut que nous apprenions à écouter, apprenions à passer du temps de qualité, afin de résister aux ruses du diable, d'avoir cette relation permanente avec le Seigneur. Vous savez, la sanctification est un processus en vue d'un d'enrichissement en vue d'un... Je reprends. La sanctification est un processus de renoncement en vue d'un enrichissement spirituel. C'est bien dit, hein ? Les choix ne seront pas toujours faciles. Ils seront même, je vais dire, peut-être de plus en plus difficiles pour nous. Je ne vais pas vous faire peur, hein, ce matin, mais c'est la réalité. Nous savons que le monde va pas vers le meilleur. Et que nous savons que nous devons nous préserver. Nous sommes des imitateurs de Christ. Et parce que nous sommes des imitateurs de Christ, nous sommes appelés à renoncer, appelés à être, je vais mettre ça un peu entre parenthèses, à être différents des autres. Différents non pas pour nous remarquer, dire « regardez, moi je ne fais pas comme vous », quoique... Nous sommes appelés à être différents et dans la Bible, il y a des hommes, il y a plein d'exemples, mais j'en ai pris un, c'est Daniel et ses amis. Dans Daniel chapitre 1, verset 8, il est dit « Daniel résolu », donc ça veut dire que ça a été un choix pour lui, « de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait ». Daniel et ses amis ont décidé de se différencier des autres pour continuer de plaire à Dieu et de rester en communion avec lui. Ils ont décidé de ne pas consommer certains mets, certains aliments que le roi proposait. Et quand on sait comment les choses étaient préparées, il y a certains aliments qui étaient offerts en sacrifice au roi de Babylone. Ils étaient dans un monde où voilà, on offrait les aliments à des faux dieux. Et Daniel, ses amis, ont décidé de ne pas se souiller à ces choses. Et ne voulant pas cautionner ces pratiques, Daniel demande de s'abstenir. Et Daniel aurait pu mettre sa vie en danger par cette exigence, par ce qu'il a demandé. Mais par sa fidélité à Dieu, il a reçu, de ce qu'il a reçu, il a su tenir ferme. Et Dieu dispose même les circonstances dans la suite. Quand on lit la suite de Daniel, on sait que parce que Daniel n'a pas voulu se corrompre, se souiller avec les choses que le roi donnait, bah Dieu a vu ça et Daniel va être une source de bénédiction. Les amis de Daniel vont être une source de bénédiction dans la suite. Ils auraient pu mettre en danger... la sainteté impliquera toujours des choix et impliquera toujours des prises de position. Et vous savez, nous risquons même peut-être d'être catalogués, nous risquons peut-être même de perdre certaines amitiés. Et vous savez, lorsque on a cette attitude d'affirmer nos convictions, Dieu le voit. Et même si on peut être rejeté par les autres, des fois, le Seigneur fait que ceux qui nous ont rejetés viennent après nous voir et nous demandent de la prière pour nous. Il y a toujours dans Daniel, les trois, dans Daniel chapitre 3, le roi a reçu une vision d'une statue et il ne savait pas comment l'interpréter. Et le roi va demander, et Daniel va dire la vision, et le roi va mal interpréter cette vision, et il va faire construire sa statue, et il va demander à tout le peuple de l'adorer, à tout le peuple de se prosterner et d'adorer la statue que Nebuchadnezzar avait faite. Mais les amis de Daniel ont décidé de ne pas le faire. Et ils ont été jetés dans la fournaise, ils ont été jetés dans ce feu, mais l'Éternel est intervenu. Dieu a vu le fait qu'ils ne se souillent pas, Dieu l'a vu et Dieu est intervenu en leur faveur. Et même au verset 30 de Daniel chapitre 3, il est dit que le roi les fit prospérer. Dieu ne les a pas abandonnés. Et quand on lit la suite, Dieu va même se servir d'eux après. Ce plan, je pense, n'aurait pas pu être accompli si Dieu, si ses amis avaient décidé d'accepter les mœurs qui étaient là. Et je ne suis pas en train de dire que ce sera toujours comme ça, parce qu'on a des exemples de frères, de sœurs qui, parce qu'ils gardent leur foi, gardent leur conviction, sont persécutés. On a l'exemple de frères et de sœurs qui sont tués. Mais Dieu nous bénira. Dieu ne nous abandonnera pas. On a l'exemple de Paul, on a l'exemple de Jean-Baptiste dans la Bible qui a été décapité parce qu'ils ont gardé leur position. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la question que je voudrais qu'on puisse se poser, c'est est-ce que je veux plaire aux hommes? Est-ce que je veux continuer à rester dans ma position dans laquelle je suis, quitte à faire des compromis, quitte à accepter tout, même si ça va à l'encontre de mes principes chrétiens, à l'encontre de ce que j'ai pu recevoir, ou est-ce que je veux plaire à Dieu? Ou est-ce que je veux marcher et progresser dans cette sanctification? Vous savez, Paul dira à la fin de notre lecture, « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a donné son Saint-Esprit. Celui qui rejette ses instructions ne rejette pas un homme, ni la Bible, mais il rejette Dieu. » Ces instructions sur la sanctification sont importantes, car notre salut est en jeu. Je recite Hébreux 12, 12-14, rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et vous savez, il y a un courant qui dit qu'on ne peut pas perdre son salut. Mais juste avec ce verset, je crois que nous pouvons perdre notre salut. Et je crois qu'il est important de vraiment rester attaché à Christ. Et la sanctification dans notre vie signifie que Jésus est bien avec nous et que nous portons du fruit. Que nous portons du fruit. Alors, comment progresser dans cette sanctification? Jésus dira dans Jean 17:17, « Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Nous devons marcher selon l'Esprit. » L'apôtre Paul dira dans Galates 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous devons avoir une vie spirituelle nourrie par la prière, nourri par la lecture de la Bible. Et en vivant ainsi, nous serons plus sous l'influence de ce monde, mais nous serons influencés par l'Esprit de Dieu. Et nous pourrons discerner et pouvoir résister au diable. Vous savez, Jacques 4, verset 7, nous dit, et on cite souvent des fois on cite mal ce verset, on dit « Résistez au diable, il fuira loin de vous ». Mais juste avant, il y a un petit mot important, hein. Soumettez-vous à Dieu. On peut résister au diable et il fuira loin de vous si seulement on est soumis à Dieu. Si seulement on est nourri par la parole. Il faut rester attaché au vrai cep et demeurer en lui. Et cette sanctification sera un combat jusqu'à notre jusqu'à ce que l'on atteindra le ciel. Et lorsque nous serons avec Dieu, avec le Seigneur, nous serons entièrement, et là on pourra tous dire, je suis parfait, je suis dans un corps parfait, il n'y aura plus de péché. Alors je vais terminer avec ces questions et peut-être qu'on pourrait prendre un temps de prière après en disant, mais qu'est-ce que je dois sanctifier dans ma vie aujourd'hui ? Quels sont les points que sur lesquels je suis un peu fébrile, où je joue un peu sur deux tableaux ? Qu'est-ce que je dois laisser à la croix ? Qu'est-ce que le Seigneur doit purifier, doit laver ? Amen. Est-ce qu'on pourrait prendre un temps de prière tous ensemble ? Seigneur, on veut vraiment te remercier pour ta parole, parce que c'est vrai que tu es celui qui nous a lavés, qui nous a sanctifiés, qui nous a purifiés. Et Seigneur, je veux te dire merci. Merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ce que tu as fait. Nous étions, c'est vrai, condamnés, mais Seigneur, tu nous as libérés. Et Seigneur, tu nous demandes aussi de progresser dans cette sanctification, de progresser dans cette marche. Et Seigneur, je te demande vraiment, Seigneur, de nous aider chacun. Seigneur, à grandir jour après jour, à te plaire, à marcher comme toi tu veux qu'on marche. Dans ce monde, Seigneur, où tous les repères sont perdus, dans ce monde où il n'y a, Seigneur, plus de... On appelle bien ce qui est mal et mal ce qui est bien. Seigneur, nous voulons demeurer dans la vérité. Nous voulons demeurer dans la parole qui est cette vérité. Alors Seigneur, je te demande vraiment de nous bénir et de nous aider. Merci encore pour tout ce que tu fais. Amen.